9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end avec des températures agréables. La nouvelle de la semaine, c'est l'union de la gauche autour de la France insoumise. 50 ans exactement après la signature du programme commun par Georges Marchais et François Mitterrand. L'historien Christophe Abatardi va nous raconter comment ça s'est passé à l'époque et si ça avait provoqué autant de protestations qu'aujourd'hui. Et puis il y a les taux d'intérêt qui remontent brutalement après avoir baissé pendant 30 ans. Tout ça pour lutter contre l'inflation. L'économiste Mathilde Lemoine va nous en expliquer les conséquences. Et l'on terminera avec le docteur Joël Dehas, grand spécialiste des chiens. Il paraît que la race des chiens ne détermine pas leur comportement. C'est le résultat d'une étude parue dans Science. On va voir ce qu'il en pense.
Europe 1.
La nouvelle union de la gauche est née cette semaine. Elle s'appelle la nouvelle union populaire, écologiste et sociale. La France insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste et le Parti socialiste ont scellé un accord en vue des législatives et se sont mis d'accord sur un programme. Voilà qui rappelle un autre moment historique, la signature du programme commun il y a 50 ans exactement, 1972, par le Parti communiste de Georges Marchais, le Parti socialiste de François Mitterrand et le mouvement des radicaux de gauche de Robert Fabre. Christophe Abatardi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l'Union de la gauche. Vous venez de publier le programme commun de la gauche 1972-1977, un gros livre de 500 pages aux presses universitaires de Bordeaux. Alors aujourd'hui, c'est au tour de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon que s'est bâtie l'Union. En 72, c'était au tour de qui?
C'est une bonne question. En fait, c'est autour de deux organisations, en l'occurrence le PC et le PS, avec une volonté du PC depuis le début des, milieu des années 60, constatant son isolement à travers des résultats électoraux et le fait que ça l'empêchait de conquérir d'avoir de nombreux députés. Donc il y a une volonté de prise de pouvoir de la part du PC qui, pendant plusieurs années, va tenter d'obtenir ce programme qui n'aboutira qu'en juillet 1972, parce qu'entre-temps, il y aura eu 1968. Et puis, il y aura eu la réunification du PS avec le congrès d'Épinay en juin 1971.
Sous l'autorité de François Mitterrand, qui lui considère que le seul moyen d'arriver au pouvoir, c'est en s'alliant avec la gauche et non pas avec le centre, comme essayaient de le faire les socialistes depuis longtemps.
C'est ça, c'est exactement ça. Alors, c'est pas seulement qu'ils essayaient, parce qu'il y avait ce qu'on appelait à l'époque, notamment localement, dans certaines municipalités, les alliances dites de troisième force, où on avait une partie du centre, une partie de la droite qui était alliée à la SFIO, comme c'était le cas à Marseille, comme c'était le cas à Nantes. Donc lui, oui, il va déplacer le curseur, il va considérer que c'est dans une alliance avec les communistes qui va arriver au pouvoir. Et petit détail, il va faire en sorte que soit oublié le débat idéologique qui était le débat qui était entre le PC et le PS par presse interposée et qui l'abandonne en disant non, il faut tenter de prendre le pouvoir et qui avoue dès le départ qu'il prendra beaucoup de voix, enfin qu'il tentera de prendre beaucoup de voix au PC.
Est-ce qu'à l'époque il y a l'idée que les socialistes s'allient avec le diable, un peu comme aujourd'hui, on entend ça, hein, de la part d'ailleurs d'un certain nombre de socialistes disant s'allier avec Jean-Luc Mélenchon c'est s'allier avec le diable.
Et oui, la droite et puis même une partie du centre comme le parti radical, la partie majoritaire du parti radical qui ne va pas, donc via le parti radical de gauche, rejoindre l'alliance, considère que c'est une alliance avec le diable. Jacques Chaban-Delmas parle de devenir otage des communistes.
Oui, on entend ce mot encore.
Entend ce mot. C'est intéressant quand on voit une sorte de concordance des temps. Donc moi, je suis historien, donc je ne suis pas là pour commenter forcément l'actualité, mais ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu ces liens. Et donc du coup, en interrogeant le passé, ça permet d'avoir une lecture du présent, je suis d'accord.
Au Parti Socialiste aujourd'hui, certains, beaucoup même, dirais certains, grincent des dents. Hein, Bernard Cazeneuve a quitté le parti, François Hollande a récusé l'accord, Sébastien Le Foll se dit prêt à conduire la campagne des dissidents, Carole Delga a voté contre. Il s'est passé la même chose à cette époque?
Alors, peut-être pas à la même échelle. Et on est surtout à cette époque-là dans un processus de réunification socialiste. Donc il y a une dynamique qui fait suite, alors là on peut établir aussi un parallèle, qui fait suite au score de Defferre en 1969, où il arrive loin derrière le candidat Jacques Duclos du Parti communiste, et il fait 5%. Donc.
On parle de l'élection présidentielle, bien entendu.
Oui, hein, excusez-moi.
Effectivement, les socialistes sont totalement... Ils avaient été ratiboisés aussi par l'élection législative de 68.
Donc, c'est ça.
68 plus 69, effectivement.
Ça commence à faire beaucoup.
Michel Rocard, à l'époque, qui n'était pas au Parti socialiste, avait qualifié le programme commun de cinglé.
Alors, il l'accuse d'être cinglé, puis en 1974, il rejoint le PS, alors en n'étant pas forcément sur la ligne de celle du programme commun, puisque lui, il appartenait avant au PSU et le PSU ne rejoint pas l'alliance. Il ne devient pas ce qu'on appelle à l'époque la quatrième composante. PC, PS plus MRG. Donc le PSU ne rejoint pas. Donc il est très critique, mais à la limite, il a une critique avant, au moment de la signature, considérant qu'il n'est pas assez à gauche, pour ensuite considérer qu'il est trop à gauche et trop de nationalisation. Voilà.
Revenons à l'Union populaire d'aujourd'hui. C'est ce que veulent les électeurs de gauche, ont répété tous ceux qui l'ont signé, ce nouvel accord. Est-ce que c'était déjà le cas à l'époque ? Est-ce que les électeurs de gauche en avaient marre de perdre toutes les élections depuis le début de la 5e République ? Est-ce qu'ils appelaient aussi à une union ?
Alors, il y a une forte volonté unitaire qui se retrouve effectivement, si c'est ça le critère d'appréciation, qui se retrouve dès les élections législatives de 1973. La gauche ne gagne pas, mais progresse fortement par rapport aux dernières élections législatives. Il y a une volonté unitaire qui s'affirme jusqu'à l'élection de 1974, où là, Mitterrand, à quelques centaines de milliers de voix, rate l'élection présidentielle au second tour. Donc oui, il y a une volonté unitaire.
Et les négociations qui ont abouti à la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, on dit NUP, hein, ou NUPS, ça dépend, elles ont été extrêmement rapides. Hein. Ils se détestaient pendant la présidentielle, ils partent unis pour les législatives. À l'époque, ça a pris combien de temps ?
Il y a un référendum sur l'élection européenne en avril 1972, sur l'entrée dans l'Europe de la Grande-Bretagne. Et tout de suite après, les négociations s'enclenchent. Parce que le PC a son programme, le PS a son programme, donc très rapidement, du mois de mai au mois de juin, enfin ça prend à peu près 2 mois, au bout de 2 mois, ils s'entendent. Tout le monde fait des compromis. En fait, le PC accepte finalement la construction européenne, le PC accepte qu'à travers le programme commun ne soit pas proposée la sortie de l'Alliance de l'Atlantique Nord, donc de l'OTAN. Donc il y a des compromis, le PS de son côté en fait sur les volets sociaux, sur le volet des nationalisations. Donc c'est un compromis. Je dirais que moi, pour l'avoir étudié à travers les archives et la comparaison des différents programmes de l'époque, il n'y a pas de gagnant.
Il n'y a pas de gagnant
à l'époque.
Et on est capable de sacrifier un certain nombre de choses dans l'espoir de gagner.
C'est ça, et on est même, et ça se retrouve dans l'accord entre le PS et puis LFI, on peut même être amené à pointer une interprétation et une divergence. Alors, il n'y en a qu'une qui est mentionnée dans le programme commun, c'est sur l'autogestion, parce que le PS tient à ce vocabulaire pour les entreprises publiques, le PC n'y est pas attaché. Donc, et là, il pointe une divergence, un peu comme sur l'Europe. LFI et le PS pointent une divergence dans un accord sans peut-être savoir réellement ce qu'il emportera après coup entre une interprétation et une autre. Donc c'est renoué presque. C'est ça qui est intriguant et intéressant quand on étudie l'histoire, c'est de voir que là, on renoue avec une pratique qui était courante dans les années 60 à gauche, avant d'aboutir au programme commun, où on s'entendait sur un programme tout en pointant des divergences.
On fait une pause, Christophe Battardi, on se retrouve juste après.
Europe 1,
c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes ce matin avec l'historien Christophe Battardi qui publie le programme commun de la gauche 1972-1977 aux presses universitaires de Bordeaux. Et oui, 50 ans plus tard naît la nouvelle Union populaire écologiste et sociale. Elle comprend aujourd'hui les écologistes, ça n'était pas le cas en 1972. Il faut dire que les écologistes n'étaient pas encore nombreux. Il était déjà question d'environnement à l'époque.
C'est une bonne question, d'autant plus qu'on fête on commémore le rapport Meadows, qui est un rapport de 1972 qui pointe et qui à l'époque avait fait l'objet d'une bombe scientifique parce qu'il pointait du doigt la finitude des ressources et le risque qu'on avait à aller dans cette course à la production. Donc non, c'est un peu hors champ d'un point de vue politique, mais les historiens ont tendance à relire cette période et d'observer que, bien au-delà d'être une période dite des 30 glorieuses, c'est aussi une période dite qu'ils appellent les 30 ravageuses pour certains, parce que c'est une période de contestation, pardon, et c'est aussi une période d'où émergent différents mouvements d'opposition à cette course au productivisme. Mais il est vrai que dans le programme commun, ça n'apparaît pas du tout. C'est une sorte d'impensée programmatique de la part de la gauche à l'époque.
Aujourd'hui, vous l'avez dit, hein, Christophe Battardi, c'est sur l'Europe qu'ils ne sont pas forcément d'accord entre le PS et la France insoumise. C'est aussi sur le nucléaire. Là, il y a le Parti communiste qui est en désaccord. Sur le burkini, ils ne sont pas tous d'accord non plus. À l'époque, les principaux points d'achoppement, il y avait l'Europe, vous l'avez dit. Il y avait quoi d'autre ?
Il y a le rapport, évidemment. On est en pleine guerre froide, toujours. Donc, il y a le rapport à l'URSS. qui est pointé du doigt par nombreux observateurs politiques concernant
c'est
le PC.
C'est un gros morceau, ça. Hein,
et ça, c'est un gros morceau qui n'est pas, effectivement, qui n'est pas évoqué.
Emmanuel Macron s'est allié avec le parti de François Bayrou et avec celui d'Édouard Philippe. Ça donne Ensemble. La République En Marche devient Renaissance. À l'époque, en 1972, quelle est la réaction de la majorité ?
Alors, la réaction de la majorité, elle est compliquée parce que, en fait, il y a d'abord un changement de Premier ministre. C'est Pierre Messmer, le 7 juillet 1972, qui devient Premier ministre. Il va faire un discours à Provins où il va essayer de proposer un contre-programme. Mais en fait, il y a une difficulté de la part de la droite de faire son deuil du gaullisme, en fait, face à un programme commun qui est en passe de détenir l'hégémonie culturelle sur ces différents thèmes. Et on peut être frappé à relire certains hommes de droite, comme Valéry Giscard d'Estaing, et d'observer que même dans un ouvrage comme « Démocratie française », ils ne sont pas forcément opposés aux nationalisations. Et ils considèrent même que le marxisme a permis à la classe ouvrière de limiter les méfaits du capitalisme. Donc on est dans une hégémonie culturelle de la gauche, même si à l'époque elle ne gagne pas les élections. Elle ne gagne pas non plus en 1974. C'est Mitterrand qui finira par gagner en 1981, en appliquant finalement le programme commun, malgré la désentente qui est née entre le PC et le PS en 1977 sur l'actualisation du programme commun.
L'UDR, le parti du président Pompidou, n'a plus la majorité absolue à lui tout seul.
Oui.
Il va devoir compter sur ses alliés giscardiens et centristes.
Oui, mais
ça, c'est un changement.
Ne fut pas. Je dirais qu'en fait, ce qui marque cette période, c'est Marc Lazare, l'historien, qui parle du moment programme commun. C'est vraiment un moment qui est marqué effectivement par cette prégnance et cette hégémonie culturelle de la gauche qui impose ses thèmes.
Vous avez sous-titré votre livre le temps des programmes. À l'époque, on faisait des programmes comme ça, c'était régulier, on n'en fait plus aujourd'hui.
Alors, la France Insoumise en a fait un, tout le monde. Et puis après, les gens considèrent que les programmes, c'est des mesures. Mais là, effectivement, on est sur un ouvrage de 125 pages publié aux éditions sociales qui tente d'aborder toutes les questions de société. Donc, effectivement, j'ai utilisé ce sous-titre de « C'était le temps des programmes » parce que c'est ce qui marque, en fait. Et puis, il y a une culture de l'écrit. Il y a une culture de l'écrit, il y a une culture de la preuve. Et pour avoir interviewé Pierre Juquin, il y a cette volonté, notamment de la part du Parti communiste, de graver dans le marbre un programme avec le PS, à la fois pour dire aux électeurs ce qui se fera, et à la fois pour indiquer, voilà, il n'y aura pas de trahison possible, puisque c'est écrit dans un programme.
En 1997, après la dissolution de Jacques Chirac, le Parti socialiste, le Parti communiste, le MRG et les Verts, cette fois, s'allient et remportent les législatives. La gauche plurielle, rassemblée autour du Parti socialiste de Lionel Jospin, devient la majorité plurielle. Quelle différence ? C'est que là, il n'y avait pas un programme aussi...
Il n'y a pas véritablement de programme, il y a une entente, quelques points programmatiques, mais c'est surtout une entente électorale.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on est plus dans une situation qui se rapproche de celle de 73 ou de celle de 97 ?
Alors, je dirais qu'on va voir ça la semaine prochaine, en fonction des annonces qui vont être faites de ce que devient ce programme en partie à géométrie variable entre ELV et LFI, et puis LFI et le PS, ou avec le PC sur le nucléaire, pas le nucléaire, l'Europe, pas l'Europe, et comment l'Europe, et comment le nucléaire. Donc on verra ça la semaine prochaine, comment il y aura une synthèse peut-être qui sera proposée et qui indiquerait un programme véritablement commun.
La grosse différence, c'est quand même qu'aujourd'hui, ça se fait autour de la France insoumise et de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, et plus autour du Parti socialiste.
Alors, il y a deux grosses différences. Alors, il y a celle-ci, parce que c'est... Alors, d'abord, le programme commun n'est pas autour de François Mitterrand, il est autour vraiment de deux organisations. On a tendance à oublier, parce que, en fait, l'histoire ne retient que les vainqueurs, et le vainqueur de cette histoire à gauche, c'est Mitterrand 80, en oubliant la force du PC à l'époque.
500 000 adhérents, hein,
voilà,
à l'époque.
Alors, 500 000, c'était sans doute que 300 000, 400 000, mais de toute façon, c'est 3-4 fois plus que les adhérents du PC. Même s'il y avait un petit peu une surévaluation, mais comme on le faisait partout, du nombre d'adhérents. Donc on vit un peu une période différente. Et là, la période différente, c'est qu'il y a d'abord un partage des circonscriptions. Ça, c'est ce qui fait la particularité qui ne s'est jamais vue dans l'histoire de la gauche. On se partage les circonscriptions, il y a des aspects financiers qui sont importants, tout en élaborant un programme. Alors qu'effectivement, en 1972, on élabore un programme et on ne se partage pas les circonscriptions, on ne les partage pas parce que c'est la compétition au premier tour et après au second, c'est celui qui a remporté et il y a un désistement au nom de l'Union de la gauche.
Ah oui, ça c'est une sacrée différence. Merci Christophe Battardi, je renvoie à la lecture de votre livre. Le programme commun de la gauche, 1972-1977, c'était le temps des programmes. C'est paru aux presses universitaires de Bordeaux. On fait une pause, on se retrouve juste après. On va parler de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt. Là aussi, il paraît qu'on change d'époque.
Europe 1,
c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Mathilde Lemoine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste du groupe Edmond de Rothschild. Après la Fed, c'est la Banque d'Angleterre qui vient de relever ses taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Seule la Banque Centrale Européenne maintient ses taux au plus bas. On a l'impression que c'est la fin d'une époque, celle de l'argent gratuit.
Oui, c'est vrai que ça marque une nouvelle phase. Alors, la fin de l'argent gratuit, c'est un peu tôt pour le dire, puisque on est quand même dans un monde où les pays développés vieillissent. Et c'est ce qui avait participé justement de ces taux très bas, puisqu'il y avait un excédent d'épargne. Alors, pourquoi on est entré dans une nouvelle phase? C'est que parallèlement à cette situation de vieillissement qui n'a pas disparu, hein, qui persiste, on a eu un renforcement de la régionalisation. Et ça a un rapport direct, puisque on a eu la montée en puissance depuis les années 2010 en particulier de l'Asie. Et c'est vrai que cette asiatisation des échanges internationaux a poussé les Américains à réagir beaucoup plus vite qu'après la crise de 2009 à la pandémie et à l'impact négatif sur leur activité. Alors pourquoi ? Parce que les États-Unis n'ont pas voulu une seconde fois se laisser complètement dominer et dépasser par la Chine, qui, je vous le rappelle, en 2010, avait mis le paquet en termes de relance et donc avait gagné énormément de parts de marché sur les États-Unis. Alors cette fois-ci, Biden, hein, c'était sa volonté, il l'a affiché, il n'a pas voulu faire comme Obama, en tout cas il a voulu prendre le contre-pied et donc il a voulu faire en sorte que l'économie américaine sorte extrêmement vite de la pandémie en matière économique. Et donc, il a mis le paquet et c'est à dessein qu'il a souhaité mettre sous tension l'économie américaine. Donc, ce n'est pas du tout une surprise. Hein. C'est vraiment une politique économique volontaire qui a une explication domestique, bien évidemment, mais aussi internationale. Et c'est vrai que cette fois-ci, les États-Unis ont gagné leur pari puisqu'ils ne se sont pas laissés distancer par la Chine.
On dit qu'on relève les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Alors, cette hausse des prix, elle est provoquée par quoi ?
Alors, aux États-Unis, elle est provoquée principalement par les prix de l'énergie, hein, comme en zone euro, mais aussi par les salaires et par les marges des entreprises. Et c'est en ça que la situation américaine est très différente de la situation européenne, puisque l'Europe, la zone euro en particulier, n'est pas en situation de surchauffe. Et ça, c'est ce qui explique que les politiques monétaires ne peuvent pas être les mêmes des deux côtés de l'Atlantique.
Je l'ai dit, la Banque Centrale Européenne maintient ses taux au plus bas, mais est-ce qu'elle va pouvoir continuer longtemps l'inflation? Elle est de 5% pour l'ensemble de la zone euro.
Je crois qu'elle est dans une position extrêmement difficile et c'est la position la plus difficile des banques centrales occidentales. Pourquoi? Parce que contrairement aux États-Unis, la zone euro en fait n'a pas encore retrouvé le niveau d'activité qu'elle aurait dû avoir s'il n'y avait pas eu de pandémie. Hein, on parle beaucoup du niveau d'activité de fin 2019, donc ça elle l'a retrouvé, mais s'il n'y avait pas eu de pandémie, elle aurait eu effectivement un niveau de PIB par habitant, un niveau de richesse très supérieur. Elle ne l'a pas retrouvé. Et donc, contrairement aux États-Unis qui eux l'ont dépassé, si elle augmente ses taux, en fait elle va tuer la croissance avant même qu'on ait retrouvé la richesse d'avant pandémie. Donc, elle est vraiment dans cette situation extrêmement complexe et elle a une pression sociale, puisqu'on voit bien que les ménages de la zone euro, et en particulier les ménages français, mettent au premier plan le pouvoir d'achat et donc souhaitent que cette inflation ralentisse. Et vraiment, c'est extrêmement compliqué pour la Banque Centrale Européenne. Et parallèlement à ça, les États-Unis dominent les marchés financiers. Et donc, le dollar s'apprécie, l'euro se déprécie et ça engendre de l'inflation importée en Europe. Et la Banque Centrale Européenne ne sait plus où donner de la tête puisqu'elle est face à des injonctions totalement contradictoires.
Alors, on dit qu'on remonte les taux d'intérêt, mais enfin, étant donné que l'inflation qui est au plus haut depuis 30 ans, en Grande-Bretagne par exemple, elle est à 7% et que la Banque d'Angleterre remonte ses taux directeurs à 1%, ce n'est pas vraiment les remonter, c'est les faire baisser. C'est la différence entre le taux nominal et le taux réel corrigé de l'inflation. Alors, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais c'est simple à comprendre. Si les prix montent de 7% et qu'on relève les taux d'intérêt de 1 point, c'est moins que ce qu'il y avait avant.
Oui, effectivement, c'est toute cette idée en fait que les économistes appellent l'illusion monétaire. C'est le fait que vous sous-estimez en fait ce qui se passe et donc vous considérez que les taux, si les taux remontent, ça va avoir un impact sur notamment votre épargne et donc vous allez avoir moins besoin d'épargner, vous allez plus consommer, mais en fait ce qu'il faut regarder c'est en comparaison de l'inflation ce que vous venez d'expliquer. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça malgré tout, puisque ce qui compte, ce n'est pas forcément l'inflation observée aujourd'hui, mais l'inflation anticipée. Et donc, c'est là où les banques centrales agissent, c'est-à-dire que les banques centrales vont faire en sorte que les investisseurs, mais aussi les ménages, considèrent qu'elles sont crédibles et donc qu'elles vont juguler cette inflation. Et les anticipations d'inflation à 10 ans aujourd'hui restent quand même relativement maîtrisées par les banques centrales, puisqu'elles oscillent entre 2,5 et 3 % aussi bien aux États-Unis qu'en zone euro. Et ça veut dire que c'est ce taux d'inflation-là qu'on doit mettre au regard des taux d'intérêt. Et là, on voit bien que la Réserve fédérale a des marges de manœuvre très importantes et peut remonter ses taux d'intérêt à court terme jusqu'à au moins 3 % sans que ça crée de récession aux États-Unis.
Alors, on va voir les conséquences de cette remontée des taux d'intérêt avec vous, Mathilde Lemoine, sur la croissance, sur l'immobilier, sur l'euro. Mais d'abord, on fait une pause.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddei.
Pendant une trentaine d'années, les taux d'intérêt n'ont cessé de baisser et depuis peu, on les remonte brutalement. Mathilde Lemoine, chef économiste du groupe Edmond Rothschild, est avec nous ce matin pour nous en expliquer les conséquences. Alors, première chose, les conséquences sur la croissance, par exemple.
Elles sont négatives. Les calculs qu'on peut faire aux États-Unis, c'est que si la Réserve fédérale augmente effectivement ses taux directeurs jusqu'à 3 %, hein, là elle les a augmentés de 50 points de base et on est entre 0,75 et 1 %. Donc si elle continue cette hausse, ça veut dire que la croissance américaine pourrait reculer de 3 %, toutes choses égales par ailleurs. Donc il y a un impact négatif. Mais par rapport à ça, moi je considère que c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que oui, ça peut paraître effectivement paradoxal puisqu'on s'attache au pouvoir d'achat des plus démunis. Et effectivement, là, c'est dramatique. Mais du point de vue macroéconomique, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que les pays développés ont trop d'épargne. Ils avaient déjà trop d'épargne avant la pandémie. Et donc, effectivement, la pandémie n'a fait qu'accroître ce problème. Qu'est-ce que ça veut dire, trop d'épargne? Ça veut dire qu'on ne consomme pas assez globalement, les pays développés. Ça pousse les taux d'intérêt à la baisse. Et ça a participé aussi de l'accroissement des inégalités. Puisque on voit bien que ça a facilité l'augmentation du prix des actifs des bourses. Et donc, c'est un phénomène assez négatif contre lequel les banques centrales ont lutté. C'est pour ça que la Réserve fédérale a changé de stratégie de politique monétaire et donc a dit qu'elle ne ciblait plus une inflation à 2 %, mais une inflation en moyenne. Alors, ça peut paraître très précis, mais c'est extrêmement important parce que c'est ce qui participe aujourd'hui du fait que la Réserve fédérale avait les marges de manœuvre pour accompagner la politique de Joe Biden, cette politique de surchauffe. Et si on a cette inflation très importante, ça veut dire que les gens, et en particulier les plus âgés, vont peut-être consommer plus, ou en tout cas vont peut-être donner plus, ceux qui le peuvent, aux générations des plus jeunes. Et donc, ça rééquilibre un peu le rapport de force au sein des économies. Et on dit de façon un peu caricaturale que ça favorise ceux qui empruntent relativement aux épargnants. Donc, les épargnants allemands, évidemment, ne vont pas être contents du tout, du tout, du tout. Mais du point de vue macroéconomique, ça peut permettre d'éviter de se retrouver dans une situation à la japonaise qui est dévastatrice pour l'ensemble de l'économie.
Les conséquences sur la dette publique, qui n'a jamais été aussi élevée, hein. Est-ce qu'il y a un risque de retour d'une crise de la dette dans la zone euro, comme après la crise des subprimes?
Alors, c'est extrêmement complexe comme question parce que effectivement, on dit que l'inflation permet d'accroître les recettes fiscales. Vous avez, puisque les prix augmentent, plus de TVA, plus d'impôts, etc. Bon, mais par rapport à l'époque des années 80, où on a vu des pics d'inflation extrêmement importants aux États-Unis, supérieurs à ceux qu'on observe aujourd'hui, et donc des taux d'intérêt qui sont montés plus de 19 %. Contrairement à cette époque-là, en fait, le monde est financiarisé. Les marchés financiers sont libéralisés. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le risque, c'est que si effectivement l'inflation accélère, les investisseurs vont demander aux États des taux d'intérêt plus élevés. Et le gain, il n'est pas aussi évident que ce qu'on peut avancer de façon simple en se référant aux années 80. C'est différent. Donc moi, je crois que non, les États vont devoir malgré tout rendre des comptes, même si l'inflation accélère, parce qu'encore une fois, les investisseurs vont demander à terme des taux d'intérêt plus élevés, en tout cas vont prêter à condition qu'on leur donne un peu plus d'argent.
Des conséquences sur l'immobilier ?
Alors, l'immobilier, c'est là aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est ce qu'on appelle les actifs réels, hein, et donc c'est des actifs tangibles. C'est comme les entreprises qui sont capables de fixer leurs prix parce qu'elles ont un avantage concurrentiel ou un avantage comparatif. L'immobilier, c'est pareil, c'est que les loyers normalement suivent l'inflation, et donc c'est un investissement qui vous prémunit relativement contre l'inflation. Alors, parallèlement, vous avez la hausse des taux, c'est ce qu'on voit aux États-Unis, et une des motivations du président de la Réserve fédérale, il l'a dit hein, lors de sa dernière réunion, c'était aussi de refroidir l'immobilier et donc de faire en sorte que les taux longs augmentent, et c'est pour ça aussi que parallèlement à la hausse des taux, ils ont réduit leurs achats d'actifs pour refroidir cet immobilier qui est en surchauffe. Il l'est aussi en zone euro. Hein.
Est-ce qu'il va y avoir des conséquences sur l'euro ? On voit qu'il est presque à 1 dollar là.
Alors effectivement, mais ce n'est pas que l'inflation, enfin, c'est vraiment un ensemble de choses. Les États-Unis, je vous l'ai dit, ont fait vraiment une politique de surchauffe et ça veut dire qu'elles ont des perspectives de croissance nominale qui sont beaucoup plus importantes qu'en zone euro, près du double. Hein. Aux États-Unis, on est à 2,4% de croissance en moyenne de long terme contre 1,2 en zone euro. Et donc ça veut dire que le rendement potentiel en fait aux États-Unis est supérieur. Donc vous avez intérêt à investir aux États-Unis, ça fait monter le dollar, indépendamment des questions d'inflation. Alors c'est vrai que si l'inflation est plus importante aux États-Unis qu'en zone euro, l'incitation est moindre. Mais globalement, à cause des spécificités de l'économie américaine, c'est vrai que le dollar s'apprécie relativement à l'euro. Mais encore une fois, l'euro est très pénalisé par la situation ukrainienne. Et à terme, ça se normalisera.
La hausse des prix, elle est provoquée par des facteurs externes. Quasiment, on n'y peut rien. Est-ce qu'en augmentant les taux d'intérêt, les prix vont baisser ?
Alors oui, vous avez raison de souligner que la hausse des prix résulte de facteurs externes. Et donc en zone euro, les facteurs d'inflation résultent de la guerre russo-ukrainienne pour beaucoup. Les États des grands pays de la zone euro, que sont la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, ont choisi de limiter cette hausse de prix en proposant des subventions à l'énergie. Donc ça a vraiment limité cette inflation, mais ça va se retrouver dans les dépenses publiques. Hein, et donc ça risque là aussi de mettre en difficulté la situation macroéconomique de la zone euro.
Merci Mathilde Moine pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes chef économiste du groupe Edmond de Rothschild. On fait une pause et juste après, il y a cette étude parue dans la revue Science qui nous explique que la race des chiens ne détermine pas leur comportement. On va voir ça avec le docteur Joël Dehaene.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
La race des chiens ne détermine pas leur comportement. C'est le résultat d'une étude publiée dans la revue Science, s'appuyant sur des données génétiques et comportementales collectées sur des milliers de chiens. On croit que les pitbulls sont agressifs et que les teckels sont affectueux, mais non, on peut très bien avoir l'inverse, un pitbull affectueux et un teckel agressif. Docteur Joël Dehaene, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un grand spécialiste des chiens, vétérinaire, comportementaliste. Vous leur avez consacré de nombreux livres chez Odile Jacob, que ce soit Tout sur la psychologie du chien ou Changer le comportement de mon chien en 7 jours. Je suis curieux de savoir si vous êtes d'accord avec les conclusions de l'étude parue dans Science.
Alors les conclusions ne sont pas que le tempérament ne dépend pas de la race. Les conclusions sont que quand on a un standard de race et qu'on fait une description comportementale en 3 lignes de la race, ça, par rapport à 5 pages, je dirais, sur la morphologie, cette description-là n'est pas fiable. Et donc, on ne peut pas se fier sur cette description pour avoir la garantie d'avoir un chien qui va être l'ami des enfants ou qui va avoir une bonne écoutabilité ou qui va avoir une bonne apprentissage. Donc ça n'est pas fiable, ou c'est fiable, je dirais, à peu près à 9%. C'est tout ce que ça veut dire. Mais c'est pas ça. Ça ne veut pas dire que le comportement ne dépend pas de la race. Si vous prenez un chien malinois, je veux dire, de lignée de travail, qui fait du mordant sportif, il y a une grande probabilité que tous les descendants d'un couple qui fait du mordant sportif fassent également beaucoup de mordants. Et d'ailleurs, on voit ces patrons moteurs, on voit ces comportements de base héréditaires, génétiquement programmés, ils apparaissent déjà généralement très tôt. Donc dès l'âge de 8 semaines, on a tous ces petits malinois qui font déjà du mordant. Donc, si on va chercher dans la race, dans les lignées de travail, on a une prédictibilité sur les comportements. Pas sur les comportements d'amitié avec l'enfant, par exemple. Ça, non, parce qu'on ne peut pas mettre l'enfant dans la génétique d'un chien. On peut mettre la tendance à sociable par rapport à des espèces, l'espèce propre, l'espèce canine, ou l'espèce des espèces amies. Et à partir à ce moment-là de l'environnement et de l'apprentissage, on peut mettre le chien qui a des capacités d'apprentissage et de socialisation et d'attachement avec un enfant, on le met en présence d'un enfant et on développe, c'est lourd, une relation avec un enfant. Mais on ne peut pas, dans la génétique du chien, mettre l'enfant. Tout comme on ne peut pas mettre dans la génétique du border collie la voiture. Il y a beaucoup de border collie qui poursuivent les voitures, les vélos, les motos, mais on ne peut pas mettre la voiture dans la génétique du border collie. On peut mettre la poursuite et un besoin de poursuite. Le patromoteur en qualité, le patromoteur en quantité. Il y a une quantité de poursuite nécessaire quotidienne chez le border collie, et s'il n'y a pas de mouton, il va poursuivre quelque chose qui bouge comme les voitures.
Mais les Saint-Bernard, par exemple, ils sont réputés pour leur intelligence et pour les sauvetages dont ils sont capables en montagne. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les Saint-Bernard n'en sont pas capables, ou est-ce que ça veut dire que des chiens d'autres races, aussi robustes et aussi intelligents que les Saint-Bernard, pourraient faire la même chose?
Bon, on a remplacé les Saint-Bernard par des bergers allemands et des bergers belges, parce qu'il y avait trop d'accidents avec les Saint-Bernard. Donc non, on ne peut pas prédire en fonction, par la fonction ancestrale d'un chien, on ne peut pas prédire le comportement du chien aujourd'hui. Il y a des modifications de race. Les modifications dans les tempéraments, dans les modifications dans les comportements, se font en 5 à 20 ans. On peut modifier totalement une race en 5 à 20 ans. Mais il reste un certain atavisme sur la fonction de la race. Tant que la race est sélectionnée pour un travail, vous avez une prédictibilité dans les comportements de travail, mais pas dans les comportements indépendamment du travail. Quand vous avez une race qui est sélectionnée pour la beauté, pour l'esthétique, vous avez une prédictibilité dans l'esthétique, dans la morphologie, mais vous avez une perte de prédictibilité dans le travail. Donc, par exemple, si vous prenez un husky, les huskies de l'Alaska peuvent faire... ou les huskies sibériens à la base, ou les huskies de Lascar peuvent faire jusqu'à 250 km de trot par jour, mais vous avez un husky de beauté, de lignée de beauté, qui sont plus capables de faire 5 ou 10 km par jour. Donc vous avez une grande variabilité dans les fonctions à partir du moment où vous sélectionnez pour l'esthétique. Donc non, et chaque élément, chaque comportement, chaque patron moteur, chaque fonction comportementale est liée à de nombreux gènes, donc il n'y a pas de comportement sans qu'il y ait une génétique sous-jacente. Et c'est lié à de nombreux gènes qui vont collaborer avec l'environnement pour exprimer ce qu'on appelle le phénotype comportemental, c'est-à-dire ce que l'on observe au niveau comportemental. Donc tout est variable, et c'est grâce à cette variabilité qu'on peut sélectionner un chien qui soit plus sociable ou moins sociable, un chien qui fasse plus de poursuites ou moins de poursuites, un chien qui fasse plus de mordants ou moins de mordants.
Au total, vous l'avez dit, le docteur De Haas, la race n'est responsable que de 9% du comportement prédictif. L'âge, c'est très important, par exemple?
Alors, l'âge est très important parce que la génétique s'impose quasiment à l'adolescence. Donc, vous avez énormément de façonnabilité pour le chiot qui peut avoir tous les différents comportements. Bon, la génétique, elle est déjà présente à la naissance. Si vous avez un chien craintif à l'âge de 8 semaines, c'est globalement d'origine génétique. Et vous pouvez essayer de compenser ça, de corriger ça. Mais généralement, à l'adolescence, si une crainte apparaît, si la peur apparaît, si l'agressivité apparaît, si agression de distancement, agression territoriale, ça apparaît à l'adolescence, elle est d'origine génétique. Et donc la personnalité, c'est réellement ce qui ne change pas depuis la génétique, depuis l'adolescence jusqu'à la fin de la vie. Et ça, c'est essentiellement de base génétique, je dirais de 60 à 80%.
Et l'éducation ?
L'éducation dépend de la génétique, de la capacité d'éducabilité des capacités d'apprentissage, de conditionnement associatif, de conditionnement opérant, tous ces éléments-là ont une base génétique. Donc l'éducabilité va dépendre également de la génétique, mais va dépendre également de la façon dont on va apprendre au chien. Donc là, on n'a pas de pourcentage. Si on prend, par exemple, l'héritabilité du quotient intellectuel humain, on est à 80%. 80% veut dire que la variabilité du quotient intellectuel dans une population humaine dépend à 80% de la variabilité génétique. Ça ne veut pas dire que c'est 80% lié à la génétique pour chaque individu. Ça veut dire que dans une population, on a une variabilité génétique qui exprime mieux la variabilité du quotient intellectuel que la variabilité environnementale. Chez le chien, on ne va pas dire l'éducabilité, on va également dire c'est du même genre, c'est une grande variabilité d'un chien à l'autre. Dans une population, on pourra dire que l'éducabilité est liée à plus de 50% à la génétique. Mais alors, héritabilité, il faut bien ne pas confondre héritabilité et génétique. Par exemple, les chiens ont 5 doigts aux pattes antérieures, 4 doigts porteurs et un ergot. Ces 5 doigts, il n'y a pas de variabilité. Je veux dire, c'est extrêmement rare d'avoir 6 doigts ou 4 doigts. Il n'y a pas de variabilité, donc l'héritabilité est à 0%, alors que la génétique est à 100%. Donc il ne faut pas confondre héritabilité et génétique. Tous les comportements ont une base de patron moteur. Tous les patrons moteurs, cette petite séquence de comportements, elle est héréditaire, elle est donc génétiquement programmée. On ne sait pas comment la génétique encode pour des algorithmes qui sont ces patrons moteurs, mais c'est génétiquement programmé et héréditaire. Donc tous les pointeurs pointent, tous les malinois vont mordre, tous les border collies vont faire de la poursuite, de la fixation oculaire, de la poursuite. Ce qui a ça, la qualité du comportement, la qualité, la structure du comportement, elle est génétique. La quantité du comportement a une grande variabilité liée à la génétique et liée à l'environnement.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, docteur De Haas. Je renvoie à vos livres, hein, ils sont très nombreux chez Odile Jacob, tout sur la psychologie du chien, changer le comportement de mon chien en 7 jours. Bonne journée.
Merci à vous.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine et terminé. On se retrouve demain matin à 9h. J'ai devant moi Pierre de Villeneau qui vient d'entrer dans ce studio avec un grand sourire. J'imagine que le programme de votre émission, Des Grandes Voix, dans quelques instants, vous réjouit.
Bah, en tout cas, il est tourné du côté de l'Élysée, évidemment. On est à 1h de l'investiture d'Emmanuel Macron. Donc, il en sera question avec nos correspondants sur place. On parlera aussi du contexte évidemment politique dans lequel Emmanuel Macron entame ce nouveau quinquennat, et puis on fera un détour par Washington et par Moscou, puisque évidemment, est-ce qu'on est aux prémices, j'allais dire, d'un affrontement encore plus vrai entre Vladimir Poutine et Joe Biden.
Merci pour toutes ces prévisions. Bonne journée et bonne émission.